création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Servitude. Définition. Obligation ressentie comme une limitation, une atteinte à sa propre liberté. Pianiste. Un pianiste est un musicien qui joue du piano. Mais une pianiste, qui est-ce ? Cette petite fille de dos, aux cheveux domptés par un ruban bleu, plaquant un accord invisible sur un tableau aux teintes pastel. Cette professeure présumée sadique, cette femme en robe longue à la mine concentrée, dans un salon dévoré par un Steinway et une solitude infinie. Cette documentariste, née à Buenos Aires et détentrice d'un doctorat en musicologie du XXe siècle à la Sorbonne. Réponse dans « Piano et servitude » par Andrea Cohen et Anna Schmuck, création On Air.
Piano et servitude. Je contemple les images peintes de la femme au piano. Souvent, devant un piano droit. Est-elle en train de jouer, de s'exercer, de pianoter ?
J'aime cette peinture déjà à la base, c'est un intérieur, à mon avis, nordique, de cette femme qu'on voit de dos, qui est dans un coin d'une pièce, et en fait, le premier plan, ça n'est pas elle, et on la sent très seule.
Ce tableau, il m'a profondément touchée, parce que, d'abord, parce qu'il y a cette lumière un peu à la Vermeer qui arrive de côté, il y a cet éclairage, et il y a ces lignes, ce contrepoint dans le tableau qui me touche énormément. Il y a deux tableaux au mur, il y a deux assiettes, il y a deux lignes absolument verticales là, deux lignes horizontales, et il y a un contrepoint qui se joue, et après, par contre, il y a la pianiste seule, la lampe.
On est comme un chat au piano. Et du coup, on sent qu'elle crée un monde, un univers de songe. On la sent complètement absorbée en fait par sa tâche, et je pense que pour cette femme, c'était un moment pour elle.
C'est un moment volé de solitude et d'introspection et de soi-même. C'est une rencontre avec soi-même. Et curieusement, cette jeune femme qu'on voit de dos, elle est en train de jouer du piano, mais le tableau est silencieux. Et ça, c'est très mystérieux parce que on devrait entendre de la musique, mais non. On entend le silence, et je crois que ce que le peintre a réussi dans ce tableau à faire, c'est le silence intérieur dont on a besoin pour faire de la musique, pour être artiste.
Que joue-t-elle ? Peut-être une pièce de Grieg, parce que c'est un compositeur norvégien, et que c'est, à mon avis, une toile du Nord. Mais je la vois jouer du Brahms aussi.
En regardant ces images datées d'un autre siècle, j'imagine son histoire. Je croise sa destinée. La jeune fille qui s'ennuie de devoir meubler les soirées mondaines. La jeune fille qui répète ses gammes en attendant le mariage. La vieille fille appauvrie, délaissée, devenant professeure de piano.
c'est en fait l'accompagnement d'un lied de Brahms.
Je pourrais vous jouer les premières mesures de Ondine de Debussy. Juste ce début, juste cette manière de chercher la musique, d'apparaître, ce moment avec des silences, avec des vibrations. Voilà.
Note pour un spectacle en train de naître qui s'appellerait « Piano et servitude ».
Même si on n'a pas vu les tableaux, on peut les imaginer. L'amoureuse au piano. La musique russe. Au piano. La leçon de piano. Intérieur avec femme au piano. Le piano. Dame au piano. Jeune femme au piano. Femme au piano. Petite pianiste en robe bleue, fond rouge. Jeune fille au piano. Moment musical. Intérieur avec piano et femme vêtue de noir.
Tout a commencé par un nouveau projet de spectacle avec les pianos.
Mais la musique, elle inspire le théâtre. Donc au départ, on écoutera la musique, effectivement les différentes pièces qu'on peut inclure dans le spectacle. Et puis cette idée d'images qui sont inspirées de ces tableaux, qui effectivement ont une constante, qui est la femme au piano, dans cette fin du XIXe siècle, on peut la regarder d'abord comme l'idée de mettre en scène ce piano, non comme un instrument, mais presque comme un meuble. En fait, ce qu'on retire quand on regarde ces tableaux, et ce qui frappe, c'est que ce piano, il est là un peu comme un meuble de salon. Plus comme un meuble que comme un instrument. Il fait partie autant qu'un vaisselier, je dirais même qu'une bibliothèque. Il sert à poser des choses, et des vases, des fleurs. Et c'est ce qui est frappant. La dame, elle est assise, et elle fait partie aussi du tableau. Mais voilà, c'est si on peut penser à ce piano, un peu protagoniste de la scène, et la femme qui tourne autour, qui agit avec différentes actions selon les différentes musiques.
Le piano et sa mythologie me procurent une matière fortement théâtrale. Sur scène, il est mon compagnon de jeu, de tous les jeux. Sur scène, je voudrais me réincarner dans toutes ces femmes au piano à qui l'on a imposé de jouer et pour lesquelles il ne fut souvent qu'une occupation manuelle, non désirée.
Moi, je crois que c'est la musique qui évoque les attitudes. Si, par exemple, on imagine cette jeune femme au piano qui rabâche constamment les mêmes exercices. On voit d'ailleurs même dans certains tableaux, on peut très très bien l'imaginer, elle est raide, elle est penchée sur son clavier, elle est attentive, il n'y a rien de souple là-dedans. Et on sent ce dos crispé sur le clavier. Et ça, c'est un des personnages. Puis tout d'un coup, peut-être, elle va se transformer dans quelqu'un de plus habile, qui va commencer à jouer une valse, qui va commencer à jouer une barcarolle, quelque chose de plus dansant. Et à ce moment-là, elle va se transformer. Elle va être plus fluide dans ses attitudes, dans sa manière d'être. Mais elle peut aussi très bien se lever, faire autre chose et revenir au piano pour changer même le personnage. C'est dans ces attitudes-là qu'on va la retrouver différente, qu'on va l'imaginer autre.
Il a refait.
Il cherche à vous perdre. C'est particulièrement vaste, le conservatoire de Paris. C'est 35 000 mètres carrés, comme ça, donc les ascenseurs. Allez-y.
servitude, c'est quelque chose qu'on doit à l'art. Maintenant, il y a bien des fois dans nos vies d'artistes où on s'est senti enchaîné avec ce piano, où on a senti la servitude dans le sens négatif du terme. Mais moi, quand j'entends ça, je ne veux retenir que ce qu'il y a de beau. Et que tout ce qu'il y a de servitude dans notre relation à l'art, ça provoque dans le fond quelque chose qui... C'est pour une quête artistique et qui nous élève. Voilà.
Alors, ce titre, ça m'inspire un peu les moments où ma grand-mère, elle me demandait de me mettre au piano pour jouer devant les invités. Parce que ça me faisait vraiment penser... J'avais l'impression d'être un pantin. Et la servitude, c'est quelque chose qui est vraiment terrible. En fait, c'est le manque de liberté totale. Et le piano, c'est justement l'opposé. Donc ce titre, c'est plus un oxymore qu'autre chose, en fait.
Ouais, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est très négatif comme mot, servitude. Je pense pas qu'on... J'arrive pas, en tout cas, à trouver des bons côtés à ce mot. Mais du coup, je le ressens un peu comme une remise en cause du piano au lieu de peut-être ce que la société a imposé au piano.
Me refaire la même proposition, ce que tu n'as pas fait tout à l'heure avec les octaves. Est-ce que tu as pris le même tempo, refait le début? Ta-la. Tu as tout petit peu plus vite. Il faut que quand tu démarres la fantaisie, tu aies déjà ce motif en toi qui petit à petit va nous amener à doppio movimento, on est bien d'accord, mais il faut qu'il y ait une organiquement. Tu ne peux pas prendre plus vite directement sur le bébé. On passe à la blanche pour qu'on ait une perception de la pulsation.
Nous chantons la fugue en fa majeur. Enfin, on peut voir ce que ça peut donner, Émile au piano.
Pour prendre un tempo raisonnable.
Oui, oui, un peu raisonnable. Alors, pas de tortue fatiguée. À deux, vous partez courageusement. Un, deux, un, deux.
Gente, Mary Bly, vieja gente en casa y carreras en capsa.
À l'âge de 4 ans, je fais le rêve d'un petit piano. Non pas d'un piano joué, mais d'un piano à ma taille. Au réveil, je dis à ma mère qu'il fallait que j'apprenne à jouer du piano. Elle m'a donc fait prendre des cours avec un professeur de piano qui vivait en face de chez nous. Une solterone, une vieille fille, disait-on dans le quartier. Elle vivait avec sa mère et s'appelait Blanca. Quand je suis arrivée à Paris, mon premier professeur de piano s'appelait aussi Blanca, mais en français, Blanche. Et vivait avec sa fille, qui était aussi professeur de piano.
Jamais, je vais rarement m'exprimer, sauf en cas d'incompréhension de la part de l'élève, ce qui peut arriver, en termes d'heures. Je ne vais pas dire, il faut que tu travailles 3 heures, 4 heures, 1 heure. Je vais dire, il faut que tu obtiennes ça. Et ça demande du temps. Le temps de chacun, le temps qu'on consacre, et le temps... la beauté de ce temps-là, pas, voilà, ce qui est l'inverse, parce que moi, quand j'étais jeune, après ma marraine, j'ai eu deux professeurs, toujours à Nice, et certains, je pense notamment à une certaine dame qui était très âgée à l'époque, où il y avait cette contrainte du temps, on doit passer du temps au piano, on doit faire du temps d'exercice, on doit faire du temps de gamme, et de anon, et de si, et de tenue, et de toutes sortes, et pendant longtemps, j'ai cru que ce temps-là, presque de souffrance, était un temps nécessaire et qu'il était quelque part une satisfaction parce qu'il faisait obtenir quelque chose. Et bien évidemment, je me trompais. Donc c'est peut-être le défaut de mon enseignement aujourd'hui. J'ai pris un peu le contre-pied, c'est-à-dire peut-être que je n'impose pas assez de ces aspects-là qui ont aussi du bon, c'est-à-dire les choses incontournables. Mais enfin, en général, je suis plutôt obligée de brider mes élèves, curieusement. De leur dire, fais attention, ne travaille pas dans la quantité, travaille beaucoup. Je fais faire, et bien sûr, des gammes, certains exercices, mais qui sont toujours adaptés à la musique qu'on va jouer, qui sont en relation, qui sont pas des heures gratuites données comme ça pour bouger les doigts.
Après mon diplôme au Conservatoire de Buenos Aires, ma mère m'offre une plaque de bronze sur laquelle est écrit Professora Superior de Piano, Teoria y Solfeo. Mettre cette plaque devant ma future maison pour convoquer les enfants du quartier qui aimeraient prendre des cours de piano était l'avenir auquel elle me prédestinait. Aujourd'hui, la plaque est rangée comme une relique parmi mes livres et mes bibelots.
C'est la famille, petite bourgeoisie, où la grand-mère a fait du piano, ma mère a fait du piano, j'ai fait du piano.
La question n'a pas été « veux-tu faire du piano ?» mais « veux-tu faire de la danse ou du piano ?» Bien sûr, je pense que ça a été une sorte de réflexe bourgeois de donner une certaine éducation à leur fille. C'est de l'ordre du réflexe, quoi, de la tradition, en effet.
Quand j'étais petite, j'étais dans une famille très très stricte. Et quand j'avais 8 ans, mes parents m'ont proposé d'apprendre à jouer du piano. Et ça a été merveilleux pour moi de commencer à jouer du piano. Il se trouve que j'étais assez douée d'après ce que j'ai pu comprendre de ce qu'on me disait. Et c'était comme un monde imaginaire qui s'ouvrait à moi.
Moi, j'ai le schéma hyper traditionnel d'une mère qui aurait voulu être musicienne et qui n'a pas pu, et donc qui a reporté tout son amour de la musique et ses souhaits sur un de ses enfants. Voilà. Alors donc, il y a eu dans mon enfance et adolescence un grand schisme entre mon père et ma mère. Mon père voulait que je fasse des études poussées, enfin traditionnelles, et ma mère voulait que je fasse de la musique.
Ma mère était directrice d'un lycée, donc j'ai appris le piano avec la dame aux cheveux bleus qui venait donner les cours aux élèves du lycée. Je me suis régalée, j'ai fait la méthode rose, je jouais tous ces morceaux, je sais pas, plusieurs fois par jour. En les regardant des années après, je me suis dit, c'est si court que ça, 10 mesures, morceau qui me semblait très long. Et puis, dès le début, j'ai énormément improvisé, je me suis régalée à improviser. Et puis après, on a déménagé, j'ai eu une autre prof de piano. Et j'avais une amie qui improvisait, toutes les deux, on s'appelait compositrice, on adorait ça. Et puis ma mère m'a dit, tu devrais montrer tes morceaux à ta prof de piano, qui a tout cassé, trouvait ça minable. Et elle m'a donné des cours d'harmonie, à partir de ce moment-là, je n'ai plus rien fait.
J'ai toujours été avec un piano depuis que je suis toute petite, il y en avait un à la maison. Ma mère était chanteuse dans les chœurs de Radio France. Et elle le pianotait un peu comme ça. Enfin, il y avait un piano en tout cas à la maison. Et moi, j'ai le souvenir du clavier au-dessus de ma tête. Donc j'ai vraiment cette image-là de devoir lever le bras en étant debout pour toucher les notes. Donc je devais pas être grande du tout. Je crois que ça m'intéressait, ça me parlait, ce gros meuble-là dans la maison. Et j'ai pris des cours, en fait, des cours particuliers avec des gens... Et puis j'ai travaillé comme une bonne élève. J'aimais ça. Ça a été un endroit, je ne sais pas pourquoi, de relations très douces avec ma mère qui me faisait travailler souvent à la maison quand je rentrais le midi au lieu d'aller à la cantine ou le week-end ou le soir ou quoi. Où c'était souvent assez tendu, en fait, mes relations avec elle. Sauf là, c'est passé. Dans la musique, c'est passé.
Il y a aussi une filiation beaucoup grand-mère, mère, fille. Parce que ma grand-mère n'avait donc pas enseigné ma mère alors qu'elle avait enseigné son frère. Mais elle a réparé ça en me donnant, en m'accompagnant dans mon travail. Quand j'ai commencé le piano, elle venait à la maison alors qu'elle était assez malade. Et j'avais des moments d'une grande tendresse avec elle. J'avais le droit à des câlins après un effort fourni. J'ai des souvenirs très très précis en fait de quand j'étais sur mon tabouret de piano et je penchais mon buste sur ses genoux, donc elle était tout près de moi, et je jouais avec une sorte de pendentif qui avait avec des reflets. C'est un verre dans un verre un peu fumé dans lequel il y avait une image. Par contre, je me souviens pas de l'image, mais je me souvenais du coup dans cette position de regarder avec la tête sur les genoux de ma grand-mère ce pendentif et on parlait d'autre chose.
Je suis toutes ces pianistes. Je suis tous mes fantasmes des pianistes, les connus, les inconnus. Je suis Clara Schumann, je suis la jeune fille qui ne sait pas pourquoi elle fait du piano. Je suis l'accompagnatrice qui s'efface devant la diva, qui l'admire, la jalouse, qui l'aime et la déteste. Je suis l'élève à jamais de tous mes professeurs. Je suis la diva que je rêvais d'être quand j'étais enfant. Je suis Marta Argerich, je suis l'obscur professeur de piano. Je suis Emma Bovary qui ne va pas à ses cours de piano. Je suis la pianiste d'Elfried Jelinek.
Elfried Jelinek, la pianiste. Erika Raffistolbach. Ravaude là où elle peut. L'élève, les yeux baissés, fixe ses mains enchevêtrées. Le professeur regarde à travers lui, mais au-delà de lui n'aperçoit qu'un mur auquel est accroché le masque mortuaire de Schumann. Un instant fugace, elle éprouve le besoin d'attraper la tête de l'élève par les cheveux et de la flanquer dans le ventre du piano, jusqu'à ce qu'un magma sanglant de tripes et cordes à boyaux gicle et s'échappe en hurlant par le couvercle.
Qu'est-ce que tu peux dire de la palette sonore de Debussy ? Est-ce que, dans tout ce début, tu as l'impression d'avoir une palette avec beaucoup de couleurs ? Sincèrement, hein, c'est pas pour que tu répondes pour me faire plaisir.
Je pense que c'est un peu... Peu de couleurs.
Peu de couleurs, peu de dégradés. Tu vois, je t'ai dit, avec Debussy, on a un compositeur et du visuel et de la couleur, tu vois. Et si tu n'es pas vigilante quand il y a un piano de vraiment le souligner davantage, tu as du mal après à faire le più piano, più pianissimo et avoir ce dégradé de couleurs. C'est pas un bleu ou un rouge, c'est une infinité. C'est comme quand tu regardes les beaux tableaux dont on a parlé quelques fois. Vas-y, recommence s'il te plaît.
Depuis les débuts des instruments à clavier, donc ça nous amène loin, la société en général a considéré que c'était des instruments qui s'accordaient avec la nature de la femme. Dès l'Antiquité, alors il n'y avait pas de piano bien sûr à l'époque, mais les femmes qui jouaient d'un instrument avant, qui touchaient les lèvres, c'était considéré comme indécent. Et à partir de la Renaissance, enfin déjà au Moyen-Âge, celles qui jouaient ce type d'instrument étaient considérées comme des femmes impures. Et l'apparition des instruments à clavier a été en fait une chose merveilleuse pour les musiciennes, parce que c'était enfin avoir un instrument qu'on avait le droit de jouer, parce qu'on ne touche l'instrument qu'avec le bout des doigts et le bout des pieds.
Je vois des images et des textes. J'entends des sons et des textes. Je vois des images et des textes. J'entends des sons et des textes. Je vois des images et des textes. J'entends des sons et des textes. Je vois des images et des textes. J'entends des sons et des textes. Je vois des images et des textes. J'entends des sons et des textes. Marie Dagout, mes souvenirs.
Les leçons de piano, considérées comme le complément de toute bonne éducation, n'ont aucunement pour but d'initier une jeune fille au grand art de la musique, mais seulement de faire d'elle une machinale, une insipide exécutante, capable, en attendant le mariage, de divertir une heure l'ennui des soirées de famille, de jouer en mesure, ou à peu près une contredanse pour faire danser les voisines à la campagne, d'accompagner au besoin quelques virtuoses de sa force, exercer celle-là aux arpèges de la harpe ou bien à la romance.
Dans la distribution du temps consacré aux études, la plus noble part revenait au talent dit d'agrément. Il était entendu d'une demoiselle bien élevée, lorsqu'elle entrait dans le monde, qu'elle devait avoir appris, avec ou sans goût, avec ou sans disposition naturelle, la danse, le dessin, la musique, et cela dans la prévision d'un mari qui, peut-être, il est vrai, n'aimerait ni les arts ni les bals, et qui, au lendemain du mariage, ferait fermer le piano, jeter là les crayons, finir les danses, mais qui, possiblement aussi, en serait amateur.
Si je jouais un seul morceau dans le spectacle, ce serait celui-là, la prière d'une vierge, morceau de salon. Il est emblématique de cette période, rien que par son titre, la prière d'une vierge. Ce que la jeune fille pouvait, voulait, ne pouvait pas, ne voulait pas jouer.
Donc moi, j'ai une attitude extrêmement positive par rapport au piano, parce que je vois cet instrument, donc il apparaît à la fin du XVIIIe siècle. Dès son apparition, des femmes en jouent dans les grands concerts, aux concerts spirituels à Paris. Dès que le conservatoire ouvre en 1795, c'est un établissement mixte où les filles peuvent aussi apprendre la musique, parce qu'il y a le clavecin et le piano. Et toutes les grandes compositrices du 19e siècle sont des pianistes. Alors que l'accès aux autres instruments continue à être difficile. Donc, moi, je trouve le piano formidable. Et je trouve formidable qu'on ait finalement adopté cet instrument. Alors, pourquoi on l'a adopté dans chaque famille ? D'accord, c'était un instrument qui pouvait coûter cher. C'était évident que si on pouvait en avoir un, on accédait à la bourgeoisie. Mais c'est aussi un instrument polyphonique qui permet de faire danser tout le monde. Les femmes ont souvent joué un rôle, justement, ce qu'on appelait les tapeuses. Hein, donc, on joue toute la soirée. Alors, je lis des romans du 19e sans arrêt. Et par exemple, la jeune fille joue le premier morceau et son cavalier dit « Mais enfin, quand est-ce que je vais pouvoir danser avec vous ? Vous m'avez promis une danse. » Et elle dit « Oui, mais ça va. Vous voyez, la dame là-bas est en train de se préparer. » Pauvre dame a probablement passé 4 heures à jouer toutes les danses. Et même George Sand dit ça dans ses souvenirs qu'elle a répété avec des musiciens pour un bal. Donc elle avait prévu de jouer le piano dans une soirée pour faire danser ou alors pour accompagner des chanteurs.
La fortune et l'instruction, les belles manières, le bel esprit, ce qu'on appelait le monde. Cela se réduit à devenir une belle demoiselle, bien pimpante, bien guindée, bien érudite, tapant sur un piano. George Sand, histoire de ma vie.
Des fois, les gens sont choqués quand je raconte cette histoire. Je faisais mon examen au conservatoire de Reims, parce que j'étais à Reims avant. C'était un examen de fin de troisième cycle, donc on était quatre, et j'étais la seule fille qui jouait. Et j'avais mis une robe que j'avais achetée la veille, je crois. Elle était très jolie, elle était blanche avec des petites fleurs. Et en fait, quand j'ai été voir les jurys pour avoir mon commentaire, c'était trois hommes et aucun ne m'a parlé de ce que j'avais fait. Et les trois m'ont dit que j'étais très belle au piano, que j'avais beaucoup de présence, que ma robe était très bien et que c'était très bien, voilà. Que c'était très bien. Et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils ont pensé de la musique et ils m'ont dit « Oh, bah ça oui, il y a trois petites bricoles, mais bon, on a tous trouvé que vous étiez vraiment magnifique. » Et je garde encore... J'ai encore peur maintenant, quand je vais vers les jurys, d'avoir cette remarque. Donc c'est pour ça que maintenant, je mets plus jamais de robe pour jouer.
Lucille, seule, assise au piano. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi. Ouf ! Que c'est aride et dire qu'il faut apprendre ! Aujourd'hui, on ne vous épouse que lorsque vous savez jouer du piano. Il me semble pourtant que ce n'est pas pour cela qu'on se marie. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Les gammes surtout. Dieu, que c'est ennuyeux. Mais il paraît qu'elle délie les doigts. Comme si l'on ne pouvait pas être une bonne épouse sans avoir les doigts déliés. Je vous demande un peu. Ah ! Si les jeunes femmes pouvaient parler librement. Je dirais tout simplement à celui qui voudrait m'épouser. Monsieur, me voilà. Je vais avoir 20 ans. Je ne sais pas jouer du piano, mais je ne vous demande pas de savoir jouer de la flûte. Le mariage n'est pas un concert, c'est... Je ne sais pas bien ce que c'est, mais enfin, l'on ne se marie pas pour faire de la musique. Si vous voulez m'épouser sans piano, voici ma main. Si vous ne voulez pas, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Et voilà. Seulement, nous autres jeunes filles, il faut toujours nous sacrifier. Fédo, amour et piano.
Pensez-vous qu'on peut faire une distinction entre les jeux d'hommes et les jeux de femmes au piano ?
Je ne sais pas parce que je suis conservée là-dedans, alors est-ce que vous pourriez me dire ce que vous en pensez, vous ?
On dit souvent Martha Argerich n'a pas un jeu de femmes.
Oui, mais ça c'est toujours, n'est-ce pas ? Parce que c'est une tradition. Enfin, il y a eu tout de même Teresa Carreño, il y a Annie Fischer, il y a eu beaucoup de femmes pianistes. Il y en a eu moins que des hommes pianistes, mais il y en a eu. Alors je ne vois pas.
Vous vous attaquez à des répertoires, Prokofiev, Tchaïkovski, qui sont peut-être moins féminins que masculins.
Oh, qu'est-ce que ça veut dire, enfin, point de vue, à quel point de vue? Je joue aussi du Mozart, qui n'est pas féminin du tout, d'ailleurs.
C'est vrai.
Alors,
enfin... Non, mais enfin, il y a une question, peut-être, finalement, de virtuosité. Vous avez une virtuosité tout à fait exceptionnelle, ça c'est vrai.
Ok. Enfin...
C'est absolument indéniable. Et vous pensez que cette virtuosité, c'est un don chez vous ou c'est un travail ?
Bah, c'est les deux, évidemment.
Pas que toutes les filles qui faisaient du piano jouaient bien, mais enfin, quand on voit la littérature musicale qui se vendait au 19e siècle pour les amateurs, je suis désolée, mais à notre époque, on ne trouve pas les gens qui peuvent jouer ça. Donc, il faut voir que c'est quand même, c'était un moyen de développer le sens musical chez celles qui pouvaient l'avoir, et vraiment avec quelque chose qui va au-delà de juste chanter un air d'opéra où c'est monodique. On ne demande jamais aux chanteurs d'avoir les connaissances musicales qu'ont les pianistes. Donc moi je continue à voir ça positivement. Alors évidemment, une jeune fille qui n'était pas douée, elle devait souffrir, et puis tous les professeurs n'étaient pas forcément très inspirants. D'accord, mais il faut voir que c'est quand même de ce vivier de filles qui ont dû faire du piano pour des raisons plus ou moins utilitaires ou des raisons de statut, c'est de ce vivier-là qu'ont émergé les musiciennes professionnelles.
Mmh.
Aujourd'hui, la fille du moindre bourgeois apprend la musique et le piano est de rigueur dans le plus petit appartement. Je n'entends pas ici bourgeois, le notaire, l'avoué, le médecin ou même le gros marchand. Je restreins cette domination à son expression la plus simple et je parle de la fille d'un épicier, d'un bottier, d'un perruquier. Imaginons cet immeuble où l'on entend des gammes et des exercices. Cela reste une affaire de femme.
Évidemment, le piano, comme vous dites, était joué par des jeunes filles bourgeoises, mais c'était un instrument, ça montrait un certain niveau social. Et là, je viens de lire un texte d'une personne qui, autour de 1900, qui faisait un voyage en Russie et qui disait, ben, dans les grands, dans les salons des grands bourgeois, il y a toujours deux pianos à queue. Et chez cette personne, qui était un peu moins fortunée, eh bien, il y avait un piano à queue et un piano droit. Alors évidemment, maintenant, ce n'est plus la marque d'un certain standing, je crois. Quand j'enseignais, souvent, je disais aux enfants, il faut surtout pas mettre un vase de fleurs sur un piano.
Moi, pianiste. Pour les autres, pour moi-même. Quelles images je tremballe. La jeune fille qui joue des valses dans un salon bourgeois pour épater la galerie et se trouver un mari. C'est moi. La jeune femme pauvre qui deviendra professeure de piano et vieille fille. C'est encore moi. La diva qui fait l'admiration de son monde lorsqu'elle joue. C'est à moi, fantasmé, rêvé.
En gros, formée pour être pianiste soliste. Je pense que ça, quand on rentre au conservatoire, c'est l'unique image qu'on peut avoir de sa destinée en tant que pianiste. Et pourtant, j'ai eu un brin de lucidité et je me suis dit, mais d'une part, c'est un métier très solitaire qui semble pas fait, pas correspondre complètement à ma personnalité. D'autre part, c'est très angoissant parce que tout repose sur nos épaules. Et d'autre part, il faut être tellement talentueux pour pouvoir compter parmi les 10 grandes stars qui ne font que ça et qui peuvent en vivre.
Quand j'ai commencé à jouer de la musique contemporaine, d'ailleurs j'étais encore en classe, c'est parce que je fréquentais le célèbre café du coin du conservatoire qui s'appelle toujours d'ailleurs le Café de l'Europe, enfin quand le conservatoire était rue de Madrid, à Paris. Et puis là, voilà, j'ai fait la connaissance, entre autres, de Jean-Pierre Guézec. D'ailleurs, on était en classe d'harmonie ensemble, qui m'a demandé de jouer pour son concours de composition. Et là, mon professeur, qui avait remplacé Ivnat, m'a dit « Tu fais ce que tu veux, mais ça m'intéresse pas. » Donc ça m'a intéressé d'autant plus, évidemment. Et puis, voilà, après j'ai rencontré d'autres compositeurs qui m'ont demandé de jouer et on a fait des petits concerts et puis après d'autres et ça s'est déroulé comme cela.
Effectivement, on m'a dit que j'étais douée et que peut-être je pourrais en faire ma profession. Alors bon, jeune fille bourgeoise, on ne fait pas vraiment une profession de ça, mais quand même, mes parents ont été assez ouverts à cette idée. Et puis voilà, il a été décidé qu'on me présente au Grand Conservatoire de Paris. Et là, ça a été un choc, parce qu'effectivement, j'ai compris que d'abord, plus on prenait de leçons privées avec les professeurs du conservatoire, mieux on pourrait peut-être rentrer au conservatoire. Et effectivement, moi, j'y suis pas rentrée. Et ça a été une cassure dans ma vie, vraiment, vraiment, une énorme cassure. Parce que c'était mon monde imaginaire, on m'avait fait rêver, j'allais être soliste, j'allais être je sais pas quoi. Et ça a été une cassure parce que j'ai senti une injustice, peut-être que j'étais pas à la hauteur, c'est possible, mais j'ai senti une injustice dans ce processus de concours qui n'était pas seulement la qualité qu'on avait. Et voilà, et pendant plusieurs années, j'ai pu toucher du tout le piano, mais plus du tout.
J'ai eu un moment où je cherchais autre chose que la musique classique. Je voulais me libérer de certaines choses. J'avais envie de jouer en croisant les jambes, alors que c'est interdit. Et c'était vraiment, c'était pas si bête que ça, mais vraiment j'avais envie de cette image de gens du jazz qu'avaient un verre de whisky à droite du piano et les jambes croisées. Et la cigarette ou je sais pas quoi. Puis petit à petit, je suis allée vers le jazz. Donc j'ai croisé mes jambes et tout ça. Et puis de là, très très progressivement, en travaillant avec des gens, par des rencontres et puis par des besoins de son, de liberté autre que celle que j'ai trouvée dans le jazz qui finalement me convenait pas plus que ça. Je suis rentrée dans le son du piano, dans l'improvisation.
Piano maison, piano table, étagère. Piano pot de fleurs, piano table, piano table, piano étagère, 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 pot de fleurs, pot de fleurs, piano cercueil, piano cercueil, piano cercueil, cercueil.
Je suis divisée. L'une est clouée au piano, l'autre s'envole.
Je sais qu'à un moment donné où je me concentre, ça va vous sembler très puéril, mais c'est lorsque je me prépare, je me maquille, je mets une belle robe, je choisis ma tenue. Et ça, je pense que chez un homme, c'est moins important. Et pour moi, c'est une manière de rentrer dans le personnage de pianiste, mais c'est un personnage de femme pianiste, de toute façon.
On a le droit d'être interprète, on a le droit d'être chanteuse, on a le droit de se montrer en tant que femme, mais on n'a surtout pas le droit de composer, et ça reste... Alors, aujourd'hui, on le prend, le droit. Mais Clara Schumann a été oubliée, la sœur de Mendelssohn, Fanny Mendelssohn a été oubliée, enfin bon. Alors, il y a heureusement maintenant tout un courant, justement, qui est en train d'émerger, où on fait apparaître ça, que les femmes ont été oubliées de l'histoire. Et c'est vrai que l'image de la femme compositrice, c'est jamais ça qu'on nous donne, où que ce soit dans les études musicales, les études normales, les études artistiques. Non, la femme ne compose pas, du reste, on ne connaît pas les noms des femmes compositrices.
Quand j'ai commencé à faire de la musique contemporaine dans des ensembles de musique contemporaine, j'étais quand même la seule femme. La musique contemporaine, ce qui est toujours très primordial pour qui que ce soit, c'est de fréquenter les compositeurs. Et voilà, donc si évidemment on avait Beethoven à côté de soi, on lui dirait ton manuscrit, écoute, il est illisible. Voilà, il faudrait d'abord que tu le recopies, passer par final, l'ordinateur, etc. Parce que je ne le jouerai pas. C'est ce qu'on répond à des compositeurs qui vous proposent maintenant des partitions aussi illisibles que celles que Beethoven pouvait écrire. On se demande comment les copistes faisaient d'ailleurs. Donc c'est le plaisir aussi et l'intérêt extraordinaire de discuter avec tel ou tel compositeur.
Depuis un peu moins de 20 ans, je joue pratiquement que de la musique improvisée. J'ai un sac avec des objets, des morceaux de chambre à air, de liège. J'ai des balles, des baguettes, des choses comme ça. Et j'altère le son du piano en posant ces objets sur les cordes à l'intérieur. Donc c'est des pianos, forcément des pianos à queue qui ont les cordes donc parallèles au sol. Et donc je pose sur ces cordes des objets et je peux appuyer sur une touche et s'il y a un objet sur la corde, du coup le son va être altéré, ou alors je peux avec mes mains directement avoir accès aux cordes et pas jouer par l'intermédiaire du clavier.
L'enfant gâté se mit au piano et attaqua résolument un exercice. Elle frappa d'abord avec tant de furie qu'on ne s'entendait plus dans le salon, mais petit à petit, elle se modéra si bien que sa musique ne fut plus qu'un accompagnement discret de la conversation. Edmond Dabou, des mariages de province.
Piano des Fées, The Concert of Anarchy, de Rebecca Horn.
Alors c'est un piano à l'envers, accroché au plafond, un piano à queue, et tout le système a été sorti et pend un peu comme, c'est difficile à décrire, mais toutes les lames, enfin les touches, pendent comme des branches. Et il est ouvert aussi, enfin le couvercle est ouvert, mais c'est tout à l'envers, suspendu au plafond.
Et Armand, là, il est il reste pas grand chose, hein, il est complètement démoli ce piano.
Oui, là effectivement c'est le désespoir des amoureux du piano, si c'était un bon piano au départ, mais je suppose qu'il a pris quelque chose qui était déjà très abîmé. Donc des morceaux de piano, tous étalés par terre, certains les uns sur les autres. Le piano éclaté. Ouais.
Infiltration homogène pour piano à queue, Joseph Beuys.
Et ça, c'est amusant parce que ça fait éléphant. Mais il y a une croix rouge. C'est donc un piano recouvert d'une housse grise, mais les pieds sont tellement massifs que ça fait plutôt un espèce d'animal. Et il y a une croix rouge sur le côté, sur le flanc du piano. Tout le son est avalé par le tissu. Ouais.
J'imagine un moment où ce piano il est fermé, il ne se passe plus rien, et puis j'imagine encore plus tard, un moment où, au contraire, ce piano, il est grand ouvert. On enlève tout et on le laisse vraiment à nu. C'est-à-dire, on le laisse, qu'on voit tout, qu'on voit les cordes, qu'on voit tout.
Le squelette.
Oui, voilà.
Le squelette de l'animal.
Voilà.
Oui, absolument.
J'imagine quelque chose comme ça.
Et jouer avec, parce qu'on peut jouer aussi avec les cordes, les marteaux. le désosser, en fait, d'une certaine façon, pour voir l'intérieur. Il y a deux possibilités, où on finit avec le piano défait, ouvert, et qu'on passe à un monde où on est capable de tout défaire pour créer autre chose, ou alors on l'abandonne, c'est là un piano fermé, oublié, abandonné, comme ces pianos sentimentaux qu'on trouve dans le garage du transporteur de pianos qui sont là laissés à l'abandon pendant des siècles, que personne ne vient plus chercher. C'est un choix.
Ah, je ne suis pas sûre, moi je pensais qu'il pouvait y avoir les deux, qu'on pouvait l'abandonner un moment et puis après les détriper. On dit détriper.
Défaire.
Et après le défaire, oui. Comme si c'était un moment du spectacle, justement.
Peut-être.
C'est un drôle d'instrument, ce piano. C'est un instrument où on a juste le bout des doigts en contact avec lui, mais il est immense. Donc... pour être en relation jusqu'au bout de la corde avec lui, mais c'est un travail de l'imagination très fort.
Moi, justement, j'aimerais bien pouvoir aimer mon instrument plus que ça, parce que il est trop gros pour l'aimer, je trouve. Enfin, on peut jamais le transporter, on joue jamais dessus en concert. Donc c'est un instrument, je trouve, avec lequel on a aussi une distance, forcément.
Il se trouve que cet instrument a été mis dans ma chambre. C'était un meuble pour l'instant, parce que c'est un rapport très particulier. C'est à la fois un meuble, évidemment, ce n'est pas un meuble. Justement, c'est comment le meuble devient une personne. Tout d'un coup, ce piano, il pouvait être le réceptacle et le confident, l'ami, la personne. Je dis la personne parce que sa place, la place d'un piano dans une maison, sa présence est quelque chose de particulier. Donc voilà, de ce point de vue-là, le piano a été un compagnon de route.
J'ai été fâchée contre lui. D'abord, j'en ai pas fait pendant trois ans. Je me suis fâchée peut-être contre moi aussi, parce que j'ai cogné très fort et ça m'arrive encore parfois. Je peux me faire des bleus. J'ai déjà eu des doigts en sang. Enfin, du coup, ça me retombe dessus. Oui, mais c'est aussi contre lui. Parce que des fois, j'aurais envie que ce soit une guitare électrique, en fait.
Ça reste un problème, le piano, pour moi, dans la composition. Ça reste un problème. Bah, déjà, je n'ai pas composé pour le piano, sauf dans un opéra de chambre que j'ai écrit, où il devait y avoir que 6 instruments. Et puis, au fil de l'écriture... Je me suis aperçue qu'il manquait quelque chose. C'était le piano. Mais c'est la seule fois que j'ai écrit pour le piano. Ça reste un problème. Je veux dire, il y a des chocs dans la vie qui sont difficiles à cicatriser, même si on a beaucoup avancé dans son itinéraire, même si... Mais ça reste. Alors justement, là, je me disais, tiens, peut-être. Peut-être qu'il faudrait s'y mettre.
Je me place devant l'instrument comme devant un totem auquel j'offre mes cérémonies, mes rituels. Il devient oiseau, tombeau, tambour, miroir, table, étagère, porte-manteau. Je le ferme, je lui tourne autour, je le touche, le caresse, je lui monte dessus, je me glisse sur lui. Cérémonie silencieuse. Il résonne dans ma tête. Vibration, variation, son. Thank you. C'était Piano et servitude par Andrea Cohen. Avec.
Alors, Alita Baldi, je suis metteur en scène de théâtre et de spectacles musicaux.
Claire Renard, je suis compositrice et au départ, j'étais donc pianiste.
Je m'appelle Florence Launay et je suis auteure d'un ouvrage qui s'appelle « Les compositrices en France au XIXe siècle » paru chez Fayard en 2006.
Je m'appelle Lorraine de Rathulde, je suis pianiste.
Martine Jost, pianiste ou musicienne, ou les deux, ou pédagogue, ou les trois.
Sophie Agnel, je suis pianiste, improvisatrice.
Et Annelise Castaldi, je suis pianiste depuis bien longtemps, j'enseigne.
Je m'appelle Ninon Ancar et j'ai 18 ans. Je me vois accompagner, donner des conseils. J'aimerais bien trouver un équilibre entre le fait que je sois une femme, je parle de l'habillement, et le fait que je sois sur scène.
Je m'appelle Théa de Fouchécourt, j'ai 17 ans demain d'ailleurs. Moi par rapport au piano, j'ai décidé, depuis que je suis petite d'ailleurs, de ne pas en faire mon métier principal quand je serai grande. J'aimerais faire du design à long terme, mais je veux absolument pas arrêter le piano. Et j'ai commencé à donner des petits cours de piano cette année et ça m'a beaucoup plu, donc ça aussi j'aimerais le garder et continuer.
Je m'appelle Madoka Okada, j'ai 11 ans. Moi, je me vois faire des concerts avec des orchestres et devenir une prof comme Madame Annelise Castaldi. Sauf que peut-être que j'y arriverai pas, mais je me pense comme ça.
Je m'appelle Ariel Beck, j'ai 7 ans. Moi, je veux juste devenir pianiste qui joue dans un orchestre, en concert, c'est tout.
Avec les voix de Nadia Boulanger et Marta Argerich. Archivina, Marine Descamps. Coordination, Irène Omelianenko, Inès de Bruyne. Prise de son, Stéphane Beaufils, Pascal Bénard, Gaël Brawezek, Yann Fressy, Jean-Pierre Pernel. Mixage, Julien Doumenc. Réalisation, Anna Smuk.
Demain, vous avez rendez-vous avec Hélène Azéra pour Chanson Boom. Mercredi, Marina Rosenman et Nathalie Battus pour This is Malibu. Jeudi, Sound Factory, Flux et Interaction par Valentin Boer et La Terre Creuse par Thomas Becca. Et tout de suite, Les Nuits de France Culture présentées par Philippe Garbi.